Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Comment va l'Europe ? Où va l'Union en termes économiques, budgétaires et financiers ? Durant l'heure qui vient, arrêtons-nous sur ces questions avec notre invité aujourd'hui, M. Jacques Delarosière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui publie ses réflexions à propos justement du pacte de stabilité et de croissance européen. Jacques Delarosière, bonjour.
Bonjour.
Je rappellerai à nos auditrices et auditeurs quelques grandes étapes de votre carrière. Une carrière très internationale finalement, qui vous a amené depuis la direction du Trésor en France à la direction générale du FMI, le Fonds monétaire international, puis à la gouvernance de la Banque de France. Vous êtes aujourd'hui gouverneur honoraire de la Banque de France. Vous avez présidé la BERD, la Banque européenne pour la recherche et la reconstruction.
La reconstruction et le développement.
3-2-1-0. Vous avez présidé la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, s'est également trouvée sur votre chemin. Enfin, je n'oublierai pas votre élection à l'Académie des sciences morales et politiques en mai 1993 dans la section générale. Élu au fauteuil laissé vacant par le décès du cardinal Henri Saunier de Lubac. Alors cette réflexion, monsieur Delarosière, vos réflexions autour du pacte de stabilité et de croissance que l'on peut lire, découvrir notamment sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, ces réflexions sont très précieuses pour comprendre les enjeux économiques et financiers de ce grand paquebot européen. En termes simples, elles nous permettent... elles nous permettent de mieux comprendre pourquoi l'Europe a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à un équilibre pérenne. Alors, on ne reviendra pas sur la définition du traité de Maastricht ou du pacte de stabilité, qui sont tous deux au cœur de votre réflexion. Maastricht 1992, donc définition des critères d'adhésion à l'UEM, l'Union économique et monétaire. Et puis, plus tard, le pacte de stabilité, c'était en été 97, établissement des règles de bonne conduite. Avant ces deux dates, monsieur Delarosière, qui avait-il concrètement ? Quel était le système en vigueur en Europe ?
Le système en vigueur en Europe était un système national. Chaque pays avait ses normes budgétaires, sa politique budgétaire. Dans certains pays, ces normes étaient plus élaborées à moyen terme que dans d'autres. C'était le cas, par exemple, des Pays-Bas. Et chaque pays avait sa procédure budgétaire. Alors, il est évident que quand on a créé l'union économique et monétaire et que de nouveaux entrants ont adhéré à cette union, il fallait mieux coordonner les politiques budgétaires. Par définition, les politiques monétaires étaient unifiées avec la création de l'euro. Mais il fallait donc que les politiques budgétaires nationales soient mieux coordonnées.
Alors le traité de Maastricht, en fait, si je vous comprends bien, s'est imposé naturellement, et le pacte de stabilité ensuite.
Oui, et il faut bien comprendre pourquoi les deux se sont succédés et comment ils se comprennent dans leur articulation chronologique.
Ils se complètent.
Alors, le traité de Maastricht, comme vous l'avez rappelé, c'était en 1992, fixait en quelque sorte les règles essentielles en matière budgétaire pour l'adhésion des nouveaux membres. Et c'est là que vous trouvez la limite des déficits publics qui ne devaient pas dépasser 3% du PIB, ainsi que le plafond de 60% du PIB pour l'endettement des États.
Nous reviendrons sur justement le symbole.
Alors, il faut bien comprendre que quand on a édicté ces règles en février 1992, c'était essentiellement pour poser des balises pour l'entrée dans le système de pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, qui avaient à l'époque des déficits très largement supérieurs à la norme de 3%. Et donc, ça a été le chemin de la convergence vers l'union économique et monétaire. Et quand on critique maintenant un peu ces règles, il faut se souvenir qu'elles ont eu un rôle absolument fondamental, puisqu'elles ont en effet permis à ces pays de suivre ces balises, de les respecter et de rejoindre l'union économique et monétaire. Ce qui a été un atout considérable pour ces pays et pour l'Europe tout entière, puisque ce mécanisme de convergence a permis à l'euro de se créer et a permis à l'ensemble de la zone d'intensifier considérablement ses échanges.
Alors tous les problèmes n'ont pas été réglés pour autant. Hein. Tout cela, je dirais, a fonctionné peu ou prou jusqu'en 2003. Et puis arrive le mois de novembre et là, on peut parler vraiment de clash en Europe.
Oui, mais alors peut-être avant d'en arriver au clash, laissez-moi juste peut-être finir sur la question que vous m'aviez posé, qui était comment s'articule à la fois Maastricht et le pacte de stabilité et de croissance. Alors, comme vous l'avez justement rappelé vous-même, le pacte de stabilité et de croissance est très postérieur à Maastricht. Il est de 97. C'est en effet à ce moment-là que l'union monétaire a commencé à devenir une réalité ou allait devenir une réalité. Et là, le pacte de stabilité et de croissance ne consiste plus à fixer les objectifs, je dirais, de plafond qu'il ne faut pas dépasser. C'est un texte qui fixe les normes, les règles de vie, une fois qu'on est dans l'union économique et monétaire. Et l'essence du pacte de stabilité et de croissance, puis après on en viendra à votre point, c'est de dire qu'au cours d'un cycle économique, c'est-à-dire au cours de la succession des phases hautes de la conjoncture, puis des phases basses, en général ça peut durer 5, 6, 7, 8 ans, quand le cycle s'est déroulé, il faut que les positions budgétaires des États membres soient proches de l'équilibre. Voilà ce que ça veut dire. Parce que vous savez que dans les périodes d'expansion, il y a plus de recettes fiscales, et dans les périodes de récession, il y a moins de recettes fiscales, alors qu'il y a davantage de dépenses, notamment en matière de chômage, etc. Et donc, il est normal que pendant les périodes d'expansion, on constitue en quelque sorte des réserves, parce que les recettes fiscales vont mieux, et qui peuvent être utilisées, si je puis dire, dans les périodes de récession où le budget a tendance à devenir en déficit. Alors maintenant, j'en viens à la crise de...
Donc, novembre 2003, voilà, là, novembre 2003. Le clash, hein, puisqu'on reproche à la France et à l'Allemagne d'être peut-être allé un petit peu trop loin.
Tout à fait. Alors ça, c'est en effet le résultat de tout un historique qu'on peut faire commencer, si vous voulez, autour de 97-98, enfin disons au moment de l'entrée en vigueur 99 de la monnaie européenne. On a eu un cycle économique qui s'est caractérisé au cours de ces premières années, 98, 99, 2000, par des années de bonne conjoncture. Et puis, comme vous le savez, la croissance économique s'est affaiblie et on est entré dans une période de basse conjoncture. Alors ce qui est intéressant, et c'est comme ça qu'il faut comprendre la crise de novembre 1993, c'est que dans les périodes de bonne croissance économique que nous avons connues en 98, n'oublions pas qu'on avait 3,5% de croissance en France en 98.
C'est bien loin.
C'est bien loin. 99, on avait 3%. 2000, on avait 3,5%. 2001, on avait plus de 2%. C'est pendant cette période favorable, qui a ensuite fait place en 2002, 2003, 2004, à une période de moindre croissance, les déficits budgétaires ont continué de s'accumuler. Ce qui est, par définition, contraire à ce que je viens de dire sur le pacte de stabilité ou de croissance, et de croissance, puisque celui-ci dit que dans les périodes de bonne conjoncture, il faut au contraire accumuler des excédents. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand la conjoncture s'est affaiblie à partir de 2002 et encore plus en 2003, il était normal que les situations budgétaires se dégradent. C'est ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques en termes un peu précieux. Ça veut dire simplement qu'on a moins de recettes fiscales dans les mauvaises années. Et c'est là que le système s'est grippé. Parce que comme les États comme la France et l'Allemagne n'avaient pas suffisamment tiré profit des bonnes années, ils se sont en effet trouvés dans les années récentes dans une zone dangereuse qui a d'ailleurs dépassé les 3%, puisque vous savez que nous sommes à un peu plus de 4% de déficit budgétaire et que nous avons dépassé la limite de 3% pendant plusieurs années. Et la Commission, qui n'avait sans doute pas assez montré les dents dans la période favorable, parce qu'on était en dessous du 3%, a commencé évidemment à faire fonctionner les mécanismes d'alerte, les budgets excessifs, les déficits excessifs, etc. Et politiquement, il est beaucoup plus difficile de se soumettre à de telles contraintes dans des périodes de difficulté que de le faire dans des périodes de plus grande aisance. Et donc, plus tard, quand vous me demanderez peut-être de vous dire un peu comment je vois l'avenir de cette régulation budgétaire européenne, je vous dirai que j'insisterai beaucoup sur la nécessité d'agir surtout au cours des bonnes années, ce qu'on n'a probablement pas assez fait.
Tout cela a fonctionné, donc, je le disais peu ou prou. Et puis, je vous citerai volontiers, d'ailleurs, page 2 de ces réflexions. Traditionnellement, hors période de guerre, les gouvernements soumettaient à leur Parlement des budgets en équilibre. Les déficits des années de récession étaient compensés par les excédents des périodes d'expansion. La dette publique était en général de faible importance et constante sur le long terme. Il était de la responsabilité de l'exécutif de veiller à la stabilité des finances publiques et à la modération de l'endettement de l'État. Ce principe de base a-t-il été au moins appliqué ou a-t-il au moins fonctionné un petit peu dans la vie de l'Europe ?
Non, il a fonctionné très mal. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'expliquais, la tendance à l'accroissement de la dépense publique est une tendance générale que l'on peut retrouver dans l'ensemble du monde et qui a ses racines dans l'après-guerre. Ça fait 20-25 ans que la dépense publique dérape année après année. Cette tendance a continué de s'exercer au cours des années récentes. Et ce qui s'est passé, c'est au fond un profond malentendu. Parce que quand vous dites... Et les choses ont peu ou prou assez bien marché jusqu'en 2002-2003. Vous êtes le reflet, si je puis le dire avec l'amitié que je vous porte, vous êtes le reflet d'une certaine incompréhension du pacte de stabilité et croissance. En réalité, les choses ne fonctionnaient pas bien. Parce que si vous reprenez ces années 98, 99, 2000, qui étaient de bonnes années, qu'est-ce que vous voyez en France et en Allemagne ? Vous voyez qu'année après année, on accumulait un déficit budgétaire qui était 2,6, 1,8, 1,5% du PIB chaque année. Et comme on était en dessous de la limite maastrichtienne, celle de la balise initiale pour la Grèce et le Portugal, comme on était en dessous de cette limite, l'incompréhension a voulu qu'on se considère comme confortable, parce que la limite de 3% n'était pas transgressée. Alors que la véritable règle budgétaire n'est plus tellement l'affaire des 3%, c'est le fait d'avoir, pendant le cours du cycle économique, la phase haute, la phase basse, qu'on ait une position équilibrée. Or, si vous regardez la période 98-2004, qui est la période du cycle le plus récent, avec les bonnes années que j'ai indiquées jusqu'en 2001, 2002, et puis après les mauvaises années, vous voyez que la France a accumulé 14,5% de PIB, de déficit, et les Allemands, quelque chose comme 15,5%. Et donc l'idée qu'au cours du cycle, on avait une position à peu près égale à zéro, est une idée qui ne s'est pas vérifiée. Alors, il est évidemment beaucoup plus difficile politiquement de réduire la dépense publique, de réduire les déficits dans les périodes de faible croissance. Et ce qui s'est passé, que vous avez très bien décrit, c'est-à-dire la crise de novembre 1993, c'est au fond la manifestation de la difficulté politique d'apporter une véritable discipline budgétaire dans une phase de décroissance économique.
Alors il y a l'aspect politique, puis l'aspect économique aussi, hein, alourdissement des dépenses publiques au fil des années. Qu'est-ce qui a véritablement bouleversé la donne, en fait, sur le fond ?
Ce qui a bouleversé la donne, c'est un phénomène très général, qui dépasse complètement l'Europe, qui est mondial. C'est que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et on en avait déjà les prolégomènes après 14, c'est que l'État a été de plus en plus sollicité. Alors il a été sollicité au titre des systèmes de sécurité sociale qui ont été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale dans tous les pays du monde. Il a été sollicité pour des actions régaliennes comme l'enseignement. Il y a eu toute une série de dépenses publiques qui ont cru. Et il a été poussé, ce dérapage, si vous voulez, de la dépense publique, par une considération plus générale qui est assez spécifique, notamment à la France. C'est que quand quelque chose ne va pas, quand il y a un problème, on a tendance à recourir à l'État pour le résoudre, notamment par des moyens financiers.
Au secours.
Eh oui, au secours. Et alors, petit à petit, si vous voulez, dans un pays comme la France, je compare ça un peu à des strates géologiques. On a découvert qu'il y avait certaines actions à entreprendre. Alors, il y a une première strate, et puis après, quelques mois ou quelques années après, on a un deuxième besoin. Alors, il y a une nouvelle strate. Et ces strates se sont ajoutées les unes les autres, comme dans les processus de sédimentation. Mais les anciennes strates n'ont peut-être plus leur raison d'être, mais on les garde. Et donc, vous avez une sorte de rigidification de la dépense publique, avec toujours des ajouts, mais très rarement des retraits. Alors, ce phénomène de la croissance de la dépense publique est un phénomène général, vous le retrouvez dans tous les pays du monde que j'ai analysés, mais la France est malheureusement un des pays où le poids de la dépense publique par rapport à la richesse nationale est le plus élevé, puisque nous sommes à 54% de dépenses publiques sur le PIB, ce qui nous classe tout à fait en tête du peloton mondial. Alors, on voit bien que ce dérapage a des conséquences économiques sérieuses. La première chose que l'on peut dire, c'est que l'alourdissement de la dépense publique entraîne inévitablement un alourdissement de la fiscalité et de la parafiscalité, puisque l'essence d'un budget, c'est de trouver des ressources de caractère fiscal ou parafiscal pour régler la dépense. Donc, vous avez une charge fiscale dans les pays à très haut pourcentage de la dépense publique, une charge fiscale qui est élevée. En France, elle est autour de 50% du PIB, ce qui est en ligne avec les 54% de la dépense, le reste étant le déficit.
Donc le PIB, produit intérieur brut, richesse nationale.
Exactement. Et vous le savez, lorsque la charge fiscale et parafiscale dépasse certaines limites, on a une tendance qui est bien observée par les économistes à réduire les nouveaux projets.
Ça décourage l'initiative privée.
Décourage l'initiative privée, ça encourage
la délocalisation,
le transfert d'activités dans des zones à moindre pression fiscale. Et à mon avis, nous sommes en France dans une période maintenant, nous sommes arrivés à une période où ce risque de délocalisation, de fuite de capitaux, de fuite de cerveau aussi, est maintenant non négligeable. Il est réel et il est en grande partie dû à la pression fiscale. Alors la deuxième chose, c'est qu'en dehors de cette pression fiscale, vous avez la constitution de déficits. Parce que comme il est tout de même plus facile de faire appel à l'épargne publique que de faire appel à l'impôt, année après année, les gouvernements, bien qu'ils aient beaucoup relevé la barre fiscale, ont eu appel à l'emprunt, et donc financé par l'emprunt des déficits publics. Et si vous prenez l'étude que j'ai faite sur un plan un peu, une perspective un peu large, sur le plan géographique et chronologique, vous voyez que depuis 20 à 25 ans, année après année, les déficits publics s'aggravent. Et
ça remonte vraiment au début des années 80,
à peu près,
cette accélération.
Oui, ça, c'est vraiment ça le début. Je me souviens, j'étais au Fonds monétaire au début des années 80, j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme à ce moment-là, et ça a continué. Si vous voulez, la moyenne, il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est que la moyenne annuelle des déficits budgétaires français depuis 80 jusqu'à maintenant s'élève à 3,5% du PIB. Alors ça n'a pas l'air de grand-chose, mais si vous ajoutez 3,5% pendant 20 ans, vous avez des chiffres considérables qui expliquent que, et c'est ça que je voulais dire quand vous me parliez des effets économiques de cette situation, ce qui explique que la dette publique a considérablement augmenté pendant cette période. Je me souviens, quand j'étais au ministère des Finances, directeur du Trésor par exemple, vers les années 70, la dette publique française représentait un peu moins de 20% du PIB. Elle est aujourd'hui de 63,5% du PIB, c'est-à-dire qu'elle a augmenté en termes réels de 3 fois au cours de cette période d'une vingtaine d'années ou de 25 ans. Et qu'est-ce qui explique qu'une dette publique modérée, qui était la tradition française, et qui avait donc des charges financières modestes, qu'est-ce qui explique qu'en France, on soit passé de 20% à 63% du PIB en l'espace de deux décennies? Eh bien, c'est que la dépense publique, année après année, avec ce phénomène de sédimentation que j'indiquais, a augmenté sans que les recettes fiscales aient pu suivre tout à fait ce rythme. Et donc, on a accumulé un déficit, un endettement, qui est maintenant devenu un endettement supérieur à la norme, au plafond, c'est pas une norme, de 60%.
Jacques Delarosière, je vous propose de marquer une première pause dans cette émission. Nous nous retrouvons dans un très très court instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio Canal Académie.
On retrouve Édouard Rosset.
Éclairage reçoit aujourd'hui Monsieur Jacques Delarosière, gouverneur honoraire de la Banque de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et puis à travers les nombreux titres que je rappelais tout à l'heure, notamment ancien directeur général du Fonds monétaire international, gouverneur de la Banque de France, président de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Alors Monsieur Delarosière, nous parlons de vos réflexions à propos du pacte de stabilité et de croissance que les auditrices et auditeurs de Canal Académie peuvent découvrir notamment sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, dont je rappelle l'adresse www.asmp.fr. Alors vous parliez avant la pause de l'importance de cette dette, de ce poids de la dette publique. Je dirais que, en fait, le plus aberrant au sens de l'entendement humain, c'est bien le paiement des intérêts sur la dette publique. Est-ce qu'on peut revenir sur ce principe ? C'est-à-dire que l'État emprunte pour rembourser sa dette.
Oui,
c'est un cercle vicieux.
Oui, mais vous le dites très bien. On est arrivé en effet, avec ce pourcentage élevé de la richesse nationale qui est représentée par de la dette publique, on est arrivé à un point où, en effet, bien que les taux d'intérêt ambiants soient bas, et que l'État puisse emprunter dans les conditions probablement les meilleures depuis 50 ans. Malgré ça, le poids du service des intérêts, je ne parle pas des amortissements, je ne parle que du service des intérêts de la dette publique, avoisine aujourd'hui 3% du PIB, c'est-à-dire qu'il représente un montant à peu près l'équivalent des 3/4 du déficit, qui est de l'ordre de 4. Et donc, vous avez parfaitement raison de dire que l'État est obligé d'emprunter pour financer la charge financière, les intérêts de sa dette.
Un ménage moyen français aujourd'hui ferait ça, se ferait taper sur les doigts par son banquier.
Évidemment, vous imaginez un ménage allant à la fin de son trimestre d'échéance à sa banque en disant « Écoutez, maintenant j'ai besoin d'un nouveau prêt pour vous payer les intérêts ». Ça ne serait pas concevable. Et donc nous sommes dans une situation où il faut réagir.
Et réagir politiquement ?
Ben, comment voulez-vous réagir autrement ? Il faut... Nous avons signé ce traité de Maastricht, le pacte de stabilité et de croissance. Je crois qu'il est normal qu'on considère que ce n'est pas une imposition extérieure, mais que ce sont des engagements que la France a pris en toute connaissance de cause, et il faut qu'elle les respecte. D'autant plus qu'elle fait partie d'un ensemble où d'autres États honorent ces engagements. C'est le cas, par exemple, de l'Espagne et de bien d'autres. C'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de l'Irlande, c'est le cas du Portugal. Et donc, il n'y a pas de raison que l'Allemagne et la France, qui sont un peu les deux mauvais élèves de cette classe, soient exemptés de ces règles. Donc, oui, c'est une responsabilité politique. Moi, j'admire assez, de ce point de vue-là, ce qu'ont fait les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont membres de l'Union économique et monétaire. Ils sont sujets aux règles de Maastricht et du pacte de stabilité et de croissance. Mais ils ont développé, chez eux, avant même l'Union économique et monétaire, toute une législation de discipline budgétaire qui les a amenés, au fil des ans, à beaucoup mieux contrôler, maîtriser leurs dépenses publiques, le poids de leur fiscalité, leur déficit et leur endettement. Et actuellement, vous avez une combinaison que je trouve idéale, parce que vous avez bien entendu le paysage de Maastricht et du pacte qui s'applique à la Hollande, mais vous avez une législation nationale hollandaise qui est plus rigoureuse que celle du pacte, mais qui est vraiment appropriée par les Pays-Bas. C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont voté en toute souveraineté. Ils considèrent que l'avenir de la compétitivité et de la croissance potentielle et réelle de leur économie dépend d'une discipline budgétaire élémentaire, et ils l'ont fait. Et donc je trouve qu'on pourrait un peu s'inspirer, la Grande-Bretagne aussi, dans une certaine mesure, a fait ça. Je trouve qu'on pourrait un peu s'inspirer de ces exemples.
L'Australie
et la Nouvelle-Zélande ont fait des choses admirables dans ce domaine. Et ils avaient des déficits trop élevés, ils les ont réduits, et ils ont surtout établi des règles par voie législative, et par voie législative solennelle, qui sont des règles à moyen terme, et qui font en sorte que les gouvernements ne peuvent plus présenter à leur Parlement, sans violer la loi en quelque sorte constitutive, ils ne peuvent plus présenter des budgets qui sont des budgets de déficit glissant. Je donnerai simplement le titre de la loi australienne que j'aime assez. C'est « The Budget Honesty Act ».
Tout y est.
La loi de l'honnêteté budgétaire. En Nouvelle-Zélande, vous avez « The Fiscal Responsibility Control Act ». La loi du contrôle de la responsabilité en matière budgétaire. Et ce sont des pays qui ont réussi à réduire leur déficit, réduire leur endettement, et qui sont maintenant capables de gérer leurs affaires. C'est vrai aussi du Canada, c'est vrai, comme je l'ai dit, des Pays-Bas, de la Suède, et le Royaume-Uni, qui après une longue période de dérive budgétaire, vers 1996-97, pris des mesures d'ailleurs très intéressantes.
Ça donc, s'appelle du volontarisme politique.
Tout à fait.
Est-ce à dire, Jacques de la Rosière, qu'on ferait bien d'aller un petit peu plus dans ce sens en France, en Allemagne?
Je crois que oui, parce que s'il n'y a pas de volonté politique, c'est assez difficile de uniquement se soumettre à des contraintes dont on a vu que à Bruxelles, elles étaient peut-être un peu insuffisantes dans les périodes d'expansion et un petit peu trop contraignantes dans les périodes de récession.
Mais finalement, horizon des hommes politiques limité, il faut bien le dire, aux prochaines élections, horizon de ces hommes politiques et stratégie à moyen terme en matière de finances publiques sont-ils réellement conciliables?
Écoutez, s'ils étaient inconciliables, je ne pourrais pas citer dans mon étude tous les pays qui sont démocratiques, qui ont des oppositions, des partis vigoureux, des populations qui, comme toutes les populations, n'aiment pas tellement qu'on réduise les droits acquis. Ces pays-là ne seraient pas arrivés à ces règles de discipline budgétaire. Et donc, moi, je pense, peut-être est-ce une preuve de naïveté, mais Je crois que c'est plutôt parce que moi, je crois dans la volonté de mon pays et sa capacité à se prendre en main. Moi, je pense que si on expliquait vraiment aux gens, par un effort pédagogique comme celui que vous menez ici, dans cette radio, si on expliquait d'une manière beaucoup plus large que nous en étions arrivés à un point où nous avons transféré, en fait, sur les générations de nos enfants et de nos petits-enfants des charges considérables, dont on ne sait pas comment ils vont les payer, et qu'il faut maintenant arrêter ce processus et petit à petit revenir à des chiffres beaucoup plus maîtrisés en matière d'endettement et de déficit. Moi, je crois que ce langage serait compris. Il l'a été dans beaucoup de pays, et je pense que nous pouvons faire aussi bien.
Ce serait le développement durable de l'économie européenne.
Si vous voulez, parce que c'est vraiment du développement durable dont il s'agit, car on ne peut pas éternellement faire dériver la dépense publique. On peut le faire encore quelques années, mais il y a un moment où on atteint des impossibilités. Surtout, si vous voulez, dans un contexte où l'inflation n'est plus là pour éponger les dettes. Ça, c'est un point important, je crois, qu'il faut comprendre. Quand les monnaies étaient nationales et que les gouvernements ne se comportaient pas très bien du point de vue de la discipline budgétaire, il y avait une tendance à ce que les prix montent, l'inflation se dégrade, la balance des paiements se détériorait parce qu'il y avait plus d'importations, puisqu'on donnait davantage de transferts par la voie publique, etc. Et ce qui se passait, c'est qu'on avait en général une crise de change et une poussée d'inflation. Et à ce moment-là, c'était une sanction du marché qui était politiquement mal ressentie et les gouvernements se reprenaient en main. Et vous en avez vu bien des exemples. Il y avait alors une politique d'austérité budgétaire qui se mettait en route pour un an ou deux. Nous n'avons plus tout à fait ce mécanisme parce que nous sommes protégés par l'ensemble européen. L'euro est stable et la convergence, si vous voulez, dans l'esprit des marchés, de tous les pays vers une norme européenne, prédomine un peu. Et donc, la sanction par le marché, qui serait une détérioration de la signature, qui serait une montée des prix, etc., ne se voit pas. Mais le phénomène en profondeur est là, et il faut lutter. D'autant plus que les sanctions de marché, dépréciation de la monnaie, etc., ne sont plus là. Donc il faut être particulièrement vertueux.
Variable d'ajustement.
Ben oui, il faut être particulièrement vertueux. Il faut se dire, il faut prendre les phénomènes à la racine.
Donc il est nécessaire de revoir, repenser les normes budgétaires de l'Union européenne. Doit-on dire pour autant, Jacques Delarosière, que les normes actuelles, qui sont donc le fruit à la fois du traité de Maastricht et du pacte de stabilité, sont périmées, désormais obsolètes ?
Non, pas du tout. Là, je suis d'une école de pensée qui est que les normes européennes sont de bonnes normes. Elles ont été mal appliquées. Comme je l'ai expliqué, dans la période de croissance, on n'a pas appliqué. Il fallait mettre de côté. Et il fallait obliger les gouvernements à mettre de côté. C'est-à-dire que c'est dans les périodes de croissance qu'il faut que le système montre les dents, plus que dans les périodes de récession où personne ne comprend vraiment qu'on ajoute encore un élément récessif à la récession ou à la modération de l'économie. Donc, si vous voulez un peu ma philosophie en matière de réforme ou d'adaptation des règles du pacte de stabilité et de croissance, si vous voulez que nous parlions un peu de ce sujet, moi je dirais qu'il faut aborder le sujet de la manière suivante. Il ne s'agit pas de mettre en pièces ce système du pacte de stabilité et de croissance. Tout au contraire, je pense, comme je l'ai dit au début de notre conversation, que l'idée qui consiste à dire qu'au cours d'une phase à moyen terme, ça dure 5-6 ans, du cycle économique, qu'on soit dans une position à peu près neutre, est une bonne idée. est une bonne idée.
Neutre, c'est-à-dire
C'est-à-dire proche de zéro. C'est-à-dire que vous avez plus 2% une année de PIB, plus 1,5% une deuxième année, puis moins 1,5%, moins... Voilà. Et puis quand vous faites le compte, finalement, vous êtes proche de zéro. Alors, avec une certaine flexibilité, ce n'est pas un zéro arithmétique, mais c'est de cet ordre-là. Alors, si vous avez... ça, c'est la base du pacte de stabilité et de croissance, c'est ce qui n'a pas été bien appliqué. Donc, si vous me demandiez ce que vous êtes en train de me demander, comment réformer, adapter, mieux aménager les règles ou les refaire, alors je vous réponds que moi, je préfère les aménager que de les refaire à zéro. Et comment les aménager? Alors, je dirais 5 choses. Première chose, je dirais qu'il faut faire jouer le pacte de stabilité pendant toute la période du cycle. On vient de le dire très souvent au cours de cette conversation, mais puisqu'on résume un peu les conclusions, je redis qu'il faut mettre en place des systèmes qui mordent, entre guillemets, davantage dans les années de facilité qu'ils ne mordent dans les périodes où politiquement c'est beaucoup plus difficile à faire parce qu'on est en période de récession et de basse eau fiscale. Bien, ça c'est la première chose. Et c'est important parce qu'on ne l'a pas fait. Il y a un pays qui l'a fait, c'est l'Espagne, qui pendant les années de bonne conjoncture a modéré son déficit, en réalité a réduit considérablement son déficit structurel, et maintenant il est dans une position équilibrée. Donc l'Espagne a réussi le pacte de stabilité et de croissance. Et moi je suis français, et je trouve qu'il n'y a pas de raison que ce que les Espagnols font, les Français ne soient pas capables de le faire. Donc je dis qu'il faut appliquer le pacte dans son essence, qui est la neutralité sur la période du cycle. Alors ici, il y a une petite question, ou une grosse question, d'économiste, que je vais laisser entre parenthèses. Mais il est facile de comprendre que si on applique ce que je viens de dire et qui est dans le pacte, si on l'appliquait, c'est-à-dire qu'on serait dans une position neutre, égale à zéro au cours du cycle, avec des moins et des plus, sur le très long terme, comme le produit intérieur brut s'accroît sur le long terme, et que le dénominateur de la fraction dont je parle s'accroît, si vous avez une position zéro, vous tendriez asymptotiquement à réduire la dette à zéro sur une très longue période. Et les économistes vous disent, il est absurde de faire cela parce qu'il n'y a aucune raison que l'agent économique qu'est l'État et l'ensemble de ses composantes se mettent dans une position d'endettement zéro. Ce n'est pas nécessairement la meilleure allocation des ressources et ils peuvent très bien s'endetter. Ce qui est parfaitement exact. Mais ce que je dis, c'est que nous sommes dans une situation si dégradée que pour le moyen terme, si je puis dire, relativement court, qui est le nôtre, il faut s'appliquer cette règle, d'autant plus que plus tard, dans les années 2030-2040, nous aurons d'autres réveils douloureux qui seront ceux du bouclage financier du système des retraites. Et il est donc impératif de se dégager des marges d'endettement futur par une réduction de notre endettement actuel.
C'est en quelque sorte le principe des provisions, non ?
Si vous voulez. Alors, je ferme cette parenthèse. Donc, la première chose, c'est de faire jouer, si vous voulez, le système au cours des deux phases du cycle. La deuxième chose, qui est un corollaire de la première, c'est qu'il faut mettre l'accent sur ce qu'on appelle les déficits structurels. Il y a deux sortes de déficits. Il y a le déficit conjoncturel, qui est celui qui est le produit d'une moindre activité économique et qui a une incidence dont on connaît les coefficients d'élasticité sur les rentrées fiscales. Incidence qui est d'ailleurs diverse de pays à pays, parce que ça dépend un peu de la structure du système fiscal. Mais je n'entre pas dans ces considérations. Vous avez donc un phénomène qui est conjoncturel. Dans les périodes de difficultés économiques, les ressources fiscales sont moins bonnes. Dans les périodes de bonne santé économique, les rentrées fiscales sont bonnes. Mais, et ça c'est la partie purement conjoncturelle, qui normalement devrait s'équilibrer un peu d'elle-même. Et puis vous avez le déficit structurel. Le déficit structurel, c'est le déficit qui résiste à la bonne conjoncture et qui persiste dans la mauvaise. Et les économistes savent calculer, avec d'ailleurs une approximation qui n'est pas parfaite, mais ils savent calculer les déficits structurels. on comprend bien que si on a un déficit structurel, celui qui résiste, quel que soit l'état de la conjoncture, parce qu'il est là et qu'il est complètement ancré dans le système, on ne saura jamais appliquer le pacte de stabilité et de croissance. Parce que dans les bonnes années, le phénomène que je décrivais, qui est qu'on devrait avoir des excédents dans les bonnes années sur le plan de la conjoncture, du solde conjoncturel, eh bien ça ne se produit pas, parce que vous avez toujours votre culot de déficit structurel que vous traînez tout au long du cycle. Et c'est ce qui, dans les tableaux que j'ai présentés dans mon étude, ressort abondamment de la comparaison de l'Allemagne, de la France d'une part, et de l'Espagne de l'autre. Les Espagnols ont su réduire leur déficit structurel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils se sont mis beaucoup plus sur le seul jeu de la conjoncture, alors que nous traînons toujours nos déficits structurels. Donc ma deuxième idée, qui n'est pas d'ailleurs une idée neuve, c'est qu'il faut de plus en plus se concentrer sur la réduction des déficits structurels. Le gouvernement français, le gouvernement allemand et les autres gouvernements de l'Union européenne l'ont compris et ils ont accepté dans une décision de l'Eurogroupe, comme on appelle ça, c'est-à-dire les membres de l'Union monétaire, ils ont accepté de réduire leur déficit structurel d'à peu près 1,5% de PIB par an à partir de 2003-2004. Donc c'est une voie qui est indiquée, je crois qu'elle est essentielle. Ma troisième suggestion, c'est qu'il faut autant que possible dépolitiser, si ce n'est pas un très bon terme en français, mais rendre le processus budgétaire européen moins sujet à la politique. La Commission, si vous regardez attentivement ce qu'elle a fait sur des pays comme l'Irlande, le Portugal, pendant des années de surveillance budgétaire, et ce qu'elle a fait à l'égard de la France et de l'Allemagne ces dernières années, a souvent mieux prévenu les États membres de difficultés naissantes. Et elle a souvent demandé au Conseil des ministres de déclencher des procédures d'alerte. Et vous verrez, en lisant mon papier, ou en le consultant, que dans un certain nombre de cas, le Conseil a préféré ne pas agir, contrairement aux recommandations de la Commission. Je crois qu'au total, il faut se dire que les gens qui sont à la Commission en charge d'examiner les budgets, d'évaluer, par exemple, le caractère plus ou moins optimiste des hypothèses économiques qui sous-tendent les budgets, ont des choses à dire et que toute surveillance de caractère multilatéral suppose qu'on fasse un peu crédit aux gens dont c'est le métier. Ça, c'est ma troisième idée. Ma quatrième idée, qui est à mon avis peut-être la plus importante, c'est qu'il faut donner un contenu personnalisé aux normes budgétaires européennes. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans notre conversation. Je trouve que l'attitude de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la Finlande aussi, qui ont des législations nationales, qui se sont appropriées sur le plan politique des politiques de discipline budgétaire, en général un peu plus rigoureuses que celles de Bruxelles, ont une bien meilleure approche politique du problème. Parce que l'idée n'est pas de se cacher derrière le paravent européen ou de dire « Ah, c'est l'Europe qui nous impose pour des raisons mystérieuses, 3%, etc. » L'idée, c'est de dire « Mais non, mais nous avons un problème. Est-ce que c'est vraiment bien de transférer sur nos enfants et nos petits-enfants des charges de fonctionnement ?» Parce que c'est du fonctionnement même qu'on leur impose, c'est pas que de l'investissement. Et est-ce que c'est bien de faire ça ? Est-ce que dans la logique de la solidarité de l'État, qui n'est pas seulement une solidarité statique, mais c'est aussi une solidarité qui s'exerce pour l'avenir, c'est ce que vous appelez le développement durable, est-ce que c'est bien de faire ça ? Et c'est un vrai débat de société. Et ces pays ont eu ces débats, et ces pays y ont répondu. Et je trouve que ce serait bien qu'à l'intérieur des cadres maastrichtiens et du pacte de stabilité et de croissance, il y ait une sorte de personnalisation pays par pays.
C'est-à-dire tenir compte des critères de chaque pays, des caractéristiques et des problèmes de chaque État.
Par exemple, nous, on a une très haute dépense publique. Il faut voir comment on peut réduire la dépense publique. Il y a des pays qui ont de plus hauts degrés d'endettement. Il faudrait regarder leur endettement. Donc, je crois que ça, c'est une chose qui est importante. Et puis, ma dernière recommandation, qui est un peu plus lointaine, c'est la cinquième, ça consiste à se demander ce qui va se passer dans 10, 20, 30 ans, en ce qui concerne les grandes modifications démographiques qui sont à notre porte et que nous commençons déjà à ressentir. Vous savez que la population vieillit, qu'il y a moins d'actifs pour payer les retraites des gens qui les prennent, ces retraites. Et donc, il faut, à mon avis, dès maintenant, regarder les budgets, ce que font d'ailleurs les Australiens et les Anglais, en fonction d'un horizon plus lointain. Pour se dire, non pas pour se dire qu'il faut aujourd'hui résoudre les problèmes de 2030 ou de 2040, mais pour se dire, est-ce que mon budget prend un cheminement qui, lorsque j'aurai besoin d'un rajout de dépenses publiques, et ce sera immanquablement vrai pour la France vers 2030 et pour d'autres pays vers 2040, est-ce que j'aurai les capacités d'endettement soutenables ? Et donc, il y a un lien entre, si je puis dire, le moyen terme immédiat et le long terme plus lointain. Et c'est un lien qu'il faut, en tout cas sur le plan intellectuel, se poser. Alors voilà un petit peu les cinq idées que j'ai. Elles ne sont pas très originales, mais je pense qu'elles pourraient nous faire avancer et nous faire sortir un peu du... comment dirais-je, de la situation actuelle où on a une instance en justice, comme vous savez, de la part de la Commission. En réalité, ce n'est pas un problème juridique, ce n'est pas un problème de judiciaire, c'est un problème de fond. Veut-on vraiment, dans les différents pays européens, et notamment les plus importants du point de vue de leur impact sur l'économie européenne, veut-on vraiment revenir à des normes qui ne sont pas des normes d'ultra-sagesse, mais qui sont des normes, je dirais... à peu près raisonnable.
Eh bien, après ces cinq propositions fort intéressantes, dont je vous propose de reparler immédiatement après une très très courte pause. Monsieur Jacques Delarosière, je rappelle Jacques Delarosière, donc membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est l'invité d'éclairage aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans un instant.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde, l'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
Éclairage accueille aujourd'hui Monsieur Jacques Delarosière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien gouverneur de la Banque de France, donc aujourd'hui gouverneur honoraire de la Banque de France, ayant occupé de hautes responsabilités, notamment au Fonds monétaire international, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement notamment. Avant cette pause, Monsieur Delarosière, vous disiez finalement mes cinq propositions ne sont pas si originales que cela. Alors, que ne les a-t-on appliquées ? Plutôt.
Non, c'est pas parce que les idées ne sont pas originales qu'elles sont néanmoins formulées par d'autres.
Si elles relevaient de la non, mais de ce l'évidence, que je veux dire, on aurait pu les appliquer.
Oui, mais ce sont des sujets où il faut avoir une certaine volonté de faire apparaître les données et où il faut accepter de dire des choses qui ne sont pas nécessairement très, très agréables à entendre. Et je pense que ce que j'ai dit est le résultat d'une analyse très objective, que ça dépasse d'ailleurs beaucoup de notre pays, mais que notre pays est malheureusement un des acteurs qui doit se réformer dans ce processus. Alors, j'aurais préféré moi aussi qu'on s'occupe de ces affaires plus tôt. Il y a d'ailleurs, vous l'avez remarqué dans l'opinion publique, depuis quelques semaines, une prise de conscience plus forte, je trouve, de cet aspect du caractère un peu alarmant de la fiscalité, de la dépense publique, des déficits, de l'endettement en France. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet et je pense qu'il y a une certaine prise de conscience dont il faut savoir profiter.
Alors... comment voyez-vous l'avenir justement de cette construction européenne ? Car plus nous avançons, plus les membres sont nombreux. La construction européenne était déjà, et on l'a vu à travers cet entretien, relativement difficile. Quid de l'avenir maintenant ? Est-ce que ces nouveaux entrants, notamment les pays de l'Est, ne vont pas poser d'autres problèmes et nous imposer de revoir systématiquement et littéralement les nouvelles règles ?
Non, alors ça, je crois qu'il ne faut pas du tout se dire qu'il faut affaiblir les règles pour accommoder des pays qui sont ceux des nouveaux entrants. Ça serait vraiment la recette de l'échec. Il faut que ces pays se soumettent à ces règles.
Mais le peuvent-ils ?
Oui, ils le peuvent. Ils le peuvent avec une certaine difficulté et aussi certains délais.
Et beaucoup de sacrifices.
Oui, enfin ça, c'est inévitable. Si on dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne, il y a un moment où le déficit devient alarmant. Alors ces pays ont un avantage, c'est que la plupart d'entre eux ont des taux d'endettement par rapport à leur richesse nationale relativement faible. Et donc, c'est là qu'une certaine flexibilité peut s'imaginer. On peut peut-être, dans cette personnalisation des situations et des remèdes dont je parlais tout à l'heure, tenir compte du fait qu'un pays étant très peu endetté peut se permettre de regagner la ligne des 0% au cours du cycle avec un peu plus de délai qu'un pays qui est à 63% ou encore pire à 105% d'endettement par rapport au déficit. Donc il y a une certaine flexibilité qui est possible, mais ces pays doivent adhérer aux règles du club. Ils le savent d'ailleurs. Et certains d'entre eux, comme les pays baltes par exemple, ou la Slovaquie ou la Slovénie, sont à l'intérieur des clous. Ils ont des déficits budgétaires beaucoup plus faibles que les nôtres. Et donc, je mets en garde ceux qui ont tendance à regarder les pays entrants comme des pays malades, auxquels il faut accorder des régimes spéciaux. Certains d'entre eux font mieux que nous. Et alors, il y en a, en effet, il y a la Pologne, il y a la Hongrie, où les déficits sont importants. Ils sont autour de 7%, voire 8% du PIB. Et ils vont les corriger. Ils étaient à beaucoup moins il y a quelques années. Ils vont les corriger. Donc, je ne crois pas que ce soit tellement ça. Le vrai problème, c'est que ce sont des pays qui ont une croissance plus faible que la nôtre, un produit par habitant beaucoup plus faible que le nôtre. Et je pense qu'ils ont beaucoup à gagner de l'entrée dans l'union économique, peut-être un jour, un peu plus tard, l'union monétaire, parce que les nouveaux entrants ont toujours été bénéficiaires de l'intensification des échanges. Donc je crois qu'ils vont gagner de ce plan, sur ce plan.
Et peuvent-ils nous apporter quelque chose ?
Et je crois qu'ils peuvent nous apporter quelque chose, en ce sens que ce sont des zones de moindre croissance actuelle, mais de plus grande croissance potentielle que les nôtres. Et donc, ils ont besoin d'investissements pour réaliser leur potentiel de croissance.
Donc, ce que vous voulez dire, ce sont des marchés pour nous.
Ce sont des occasions pour nous d'investir, de produire, d'échanger. Et au total, moi, je pense que c'est plutôt favorable à l'ensemble de l'union économique et plus tard monétaire.
Avec le recul, Jacques Delarosière, je le disais, donc directeur général du Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, comment aux États-Unis on observait cela ? Je vous pose la question avec recul et la réponse avec recul. Lorsque vous étiez en place au Fonds monétaire international, quelle était la réaction des États-Unis en voyant cette construction européenne ? Est-ce qu'ils se disaient finalement, oh, on va les regarder ?
Il y a eu un grand scepticisme de la part des États-Unis sur la construction monétaire européenne. Ils ne croyaient pas dans la possibilité de fédérer les politiques monétaires européennes. Et donc, comme ils ne croyaient pas dans l'Union monétaire européenne, ils avaient le sentiment que l'Union européenne était plutôt une zone de commerce, de libre-échange. Et cela était plus conforme à leur manière de penser. Et au fond, l'idée que ces pays puissent se conjuguer pour créer une monnaie unique, et une politique monétaire unique avec un institut d'émission unique, était une idée qui les perturbait presque un peu, parce que c'était introduire dans une zone de libre-échange plutôt sympathique un élément fédérateur qui les surprenait. Alors au début, ils n'y ont pas cru. Ensuite, quand le projet s'est affiné, ils ont dit oui, mais politiquement, ça ne passera jamais. Et puis, quand les adhésions sont venues, les référendums, les votes positifs, les ratifications, alors ils ont changé de ligne. Ils ont dit oui, ben vous aviez raison, c'est arrivé, mais ça ne marchera pas. Et vous avez beaucoup d'économistes qui, maintenant, disent par exemple que la pas très bonne coordination, il faut le dire, des politiques budgétaires, qui a été un des sujets de notre conversation, est un élément d'inquiétude pour l'avenir du système. Et donc, il faut, à mon avis, continuer à les faire se tromper en leur montrant que ça va marcher, y compris dans la coordination budgétaire.
Jacques de la Rosière, l'Europe de demain, vous la voyez à combien de membres ?
Absorbons déjà les 10 ou 12 qui sont à l'horizon.
Mais finalement, l'objectif n'est-il pas justement d'aller beaucoup plus loin, et objectif que l'on est déjà en train de préparer, non ?
Je crois qu'il faut être assez prudent sur ces sujets-là. Il faut avancer progressivement. Et vous savez, une vague d'adhésion, c'est long à intégrer, à accommoder. Et on a déjà eu une vague d'adhésion importante qui a beaucoup apporté à l'Europe. On s'attaque maintenant à une deuxième vague dont les pays sont un peu différents, mais déjà assez préparés. Et il faut laisser ces phénomènes se passer. Moi, je ne suis pas très favorable à des élargissements successifs, nombreux et tous azimuts.
Merci beaucoup, Monsieur Jacques de la Rosière, invité de l'émission Éclairage aujourd'hui sur Canal Académie. Je rappelle donc la direction du Trésor en France dans votre carrière, la Banque européenne pour la recherche et le développement, gouverneur de la Banque de France, directeur général du Fonds monétaire international et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, élu en mai 1993 au fauteuil laissé vacant par le décès du cardinal Henri Saunier de Lubac. Et puis je renvoie évidemment à la lecture de ce très très précieux document, j'insiste, pour bien comprendre les rouages et l'actualité de la construction européenne, de ses difficultés également, nous l'avons vu au cours de cette émission. Réflexion à propos du pacte de stabilité et de croissance, Jacques de la Rosière, un texte à lire, découvrir et relire sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr. Merci monsieur, à très bientôt.
Merci, au revoir.
Canal Académie.